VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 17 mars 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Niger, 21 morts dans deux attaques de djihadistes présumées dans la région de Tillaberi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est entretenu avec le Libyen Fatih Bachaga, désigné Premier ministre par le Parlement de Tobrouk. Une délégation d'experts mauritaniens est à Bamako pour tenter d'élucider la disparition de Mauritaniens au Mali. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé au Parlement allemand après le congrès américain hier. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Au Niger, au moins 21 personnes, dont deux policiers, ont été tuées hier dans deux attaques de djihadistes présumés contre un bus et un camion dans la région de Tillaberi, selon des sources sécuritaires. Le point avec Rosine Mounezero.
Une attaque terroriste menée mercredi après-midi par des individus lourdement armés à moto et en véhicule a fait 19 morts parmi les passagers d'un bus, dont deux policiers et deux autres tués dans l'attaque d'un camion, a indiqué une source sécuritaire. Le bus et le camion ont été incendiés, a ajouté cette source sous couvert d'anonymat. Sept passagers rescapés du bus, dont quatre femmes et trois hommes, ont été retrouvés. Cette double attaque est survenue dans le département de Terra, près du poste de contrôle frontalier de Petel-Kolé, situé à 10 km de la frontière avec le Burkina, pays voisin également visé par les djihadistes selon un élu local. En octobre 2021, trois policiers nigériens avaient été tués et plusieurs autres blessés lors d'une violente attaque de djihadistes présumés contre le poste de Petel-Kolé. L'immense et instable région de Tillaberi se situe dans la zone dite de trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Elle est le théâtre depuis 2017 d'actions sanglantes de mouvements djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Fin février, le président nigérien Mohamed Bazoum a annoncé avoir amorcé des discussions avec des djihadistes dans le cadre de la recherche de la paix.
Une délégation d'experts mauritaniens est à Bamako pour tenter d'élucider la disparition de Mauritaniens au Mali. Composée de militaires et de gendarmes, elle intervient après que les deux pays sont convenus d'établir une mission conjointe d'enquête. La junte malienne avait envoyé vendredi et samedi à Nouakchott une délégation menée par son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Et plus récemment, une délégation mauritanienne s'est rendue à la frontière entre les deux pays. Notre correspondant Mohamed Danioko.
Une délégation mauritanienne composée du ministre de l'Intérieur et de la Défense et de plusieurs chefs militaires ont effectué une tournée il y a deux jours dans la zone frontalière avec le Mali. Il s'agissait pour la délégation d'expliquer aux concitoyens et aux partenaires le contenu de la dernière déclaration conjointe entre la Mauritanie et le Mali qui vise à instaurer la sécurité dans la zone frontalière. La délégation a aussi informé les citoyens des enquêtes ouvertes en coordination avec les autorités maliennes pour identifier les auteurs des crimes et des dispositions qui ont été prises pour empêcher de tels actes à l'avenir. À noter qu'une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop avait séjourné à Nouakchott les 11 et 12 mars derniers en vue de maintenir au beau fixe les relations entre les deux pays. Mohamed Danioko, VOA Afrique, Bamako.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a eu un entretien téléphonique ce jeudi avec le Libyen Fatih Bachaga, désigné Premier ministre parlement de Tobrouk, a annoncé son porte-parole Stéphane Dujarric. Le gouvernement formé par l'ex-ministre de l'Intérieur est en concurrence avec le cabinet en place Tripoli, dirigé par Abdelhamid Beyba, qui refuse de céder le pouvoir. Au moins 70 migrants sont morts noyés en deux semaines après avoir quitté la côte libyenne, indique l'OIM. Une embarcation de 25 migrants a chaviré le 12 mars au large de Tobrouk. Les autorités libyennes ont secouru 6 migrants et récupéré 7 corps, tandis que 17 autres sont toujours recherchés, précise l'OIM, évoquant un autre naufrage du 27 février au large de Sabratha. Les corps de 15 migrants ont été récupérés, dont celui d'un bébé, tandis que 35 personnes sont encore portées disparues. Un ancien militaire algérien ayant fui son pays après avoir pris part au mouvement du Irak a été arrêté lundi à Saragosse en Espagne. Mohamed Benalima se trouve dans un centre de rétention pour étrangers à Valence et fait face à une procédure d'expulsion. L'Algérie avait émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de cet ex-caporal de 32 ans. Condamné par contumace à 10 ans de prison, les autorités espagnoles lui reprochent des liens présumés avec le mouvement islamo-conservateur Rachad, selon son avocat. 62 organisations congolaises et étrangères ont alerté ce jeudi sur la préparation en République démocratique du Congo d'élections qui pourraient être bâclées et chaotiques en 2023, selon leurs propres termes. Ces ONG disent avoir relevé des similitudes avec les précédents scrutins aux résultats contestés. En 2011 et 2018, la préparation des élections accuse déjà un retard de 12 mois, déclaré devant la presse Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale pour des élections libres et transparentes. Au Mozambique, les autorités de la province de Nampula ont revu à la hausse le bilan du cyclone du 11 mars qui s'élève à 53 morts. 31 corps ont été retrouvés à Lunga dans le district de Moussouril. Le nombre de victimes pourrait encore s'aggraver alors que les opérations de secours se poursuivent. Et en Ouganda, l'écrit Norman Tumuimbize et la journaliste Farida Bikobere, qui travaille avec lui à Digital TV, ont été inculpés de cyberharcèlement contre le président.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les combats font toujours rage en Ukraine au lendemain du bombardement d'un théâtre à Mariupol où de nombreuses personnes étaient réfugiées. Kiev résiste à l'offensive russe alors que les bombardements s'intensifient dans la capitale et les métropoles de l'Est et du Sud du pays. Le point avec Nani Talani.
L'armée russe tente d'encercler Kiev par l'ouest et l'est. Les sites stratégiques sont pilonnés, plusieurs immeubles civils sont aussi bombardés. Plus au nord-est, les villes de Soumy et de Tchernihiv, encerclées, ont subi plusieurs attaques et de lourdes pertes civiles. À l'est, la ville de Kharkiv est toujours encerclée et continue d'être bombardée. Pareil pour Dnipro, plus au centre. Dans le sud, les Russes essaient toujours de prendre la ville portuaire stratégique de Mariupol. L'Ukraine les accuse d'y avoir détruit hier un théâtre dans lequel s'étaient réfugiés plus d'un millier de personnes. Le bilan humain reste encore indéterminé. Le seul mot pour décrire ce qui s'est passé est génocide. Le génocide de notre nation, de notre peuple ukrainien, a indiqué le maire Vadim Boitchenko. Moscou dément ce bombardement et l'impute aux Ukrainiens. Selon le maire, 80 à 90% de la ville a été détruite ou endommagée par les frappes russes. 400 000 personnes y survivent toujours dans des conditions humanitaires que la Croix-Rouge qualifie de cauchemardesques. Les attaques se déplacent aussi vers le sud-ouest du pays en direction d'Odessa. Moscou a déjà pris possession de la ville de Kherson. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a appelé ce jeudi l'Union européenne à considérer Vladimir Poutine comme un criminel de guerre, exhortant les Européens à intensifier les livraisons d'armes à Kiev.
Par ailleurs, l'UNESCO va fournir 125 casques et gilets pare-balles, siglés presse pour protéger les journalistes couvrant le conflit en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky enchaîne les appels à l'aide aux Occidentaux après le congrès américain hier. Il s'est adressé ce jeudi au Parlement allemand, exhortant Berlin à abattre ce qu'il a présenté comme le nouveau mur érigé en Europe contre la liberté par l'invasion russe en Ukraine. Plus de détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Cher monsieur le chancelier Scholz, détruisez ce mur, donnez à l'Allemagne le rôle de leader qu'elle mérite, a lancé le dirigeant ukrainien qui s'adressait par visioconférence à la chambre basse du Parlement allemand. Le chancelier allemand a dans la foulée salué les paroles percutantes du président ukrainien. « Nous nous sentons tenus de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour donner une chance à la diplomatie et mettre fin à la guerre », conclut le chef du gouvernement allemand, sans pour autant répondre directement aux demandes de M. Zelensky. Pour sa part, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé jeudi que la délégation russe faisait de grands efforts et accusé les Ukrainiens de ne pas montrer le même zèle. L'ONG Human Rights Watch a de son côté demandé aux autorités ukrainiennes d'arrêter de poster sur les réseaux sociaux les photos et vidéos des prisonniers de guerre russes en violation du droit international humanitaire.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Rosine Mounezero.
La Société financière internationale, la branche de la Banque mondiale qui intervient au sein du secteur privé dans les pays en développement, a participé à hauteur de 37 millions de dollars à l'émission des titres d'emprunt à moyen terme effectués par Kenya Mortgage Refinance Company, rapporte l'agence Ecofin. Cette contribution a permis à l'entreprise de mobiliser l'équivalent de 10,5 milliards de shillings kenyans, soit 93 millions de dollars, dans le cadre d'un emprunt qui a été sursouscrit 4 fois, selon ses dirigeants. L'agence américaine chargée des télécoms FCC a annoncé mercredi avoir révoqué la licence de l'opérateur chinois Pacific Networks et de sa filiale Comnet afin de prémunir le réseau national de risques en matière de sécurité. Au terme d'une enquête, l'agence a conclu que ces entreprises sont des filiales américaines d'une entité contrôlée par l'État chinois. Cette situation fait peser un risque pour la sécurité nationale des États-Unis, estime la FCC. La Chine a dénoncé jeudi un abus de pouvoir des États-Unis.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Enfin, une date pour l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Dans un communiqué, le comité de normalisation de la FIF annonce que son assemblée générale élective est prévue le 23 avril prochain. Avant cela, une assemblée générale modificative est programmée le 5 avril. Elle permettra de modifier l'article 47.3 des statuts relatifs au parrainage. Cet article est le principal point de discorde à la FIF. Il oblige chaque candidat à présenter une liste incluant les parrainages de 8 membres actifs de la FIF. La FIFA et la CAF ont exigé de modifier cette disposition, soit en supprimant le parrainage, soit en revenant à un système de parrainage sans catégorisation. Didier Drogba avait vu sa candidature rejetée en août 2020 à cause de cette question des parrainages. Toujours en Côte d'Ivoire, le sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel, a convoqué un groupe de 25 joueurs pour affronter la France le 25 mars et l'Angleterre le 29 mars en amical. On y retrouve les principaux cadres et 3 nouveaux appelés. Le milieu défensif du Betis Séville, Paul Edgar Akwaku, rejoint à 24 ans le groupe des éléphants pour la première fois. 2 autres néophytes, tous 2 pensionnaires des Ligues 2 françaises, ont été appelés. Le gardien du Havre, Mohamed Kone, et le défenseur d'Ajaccio, Ismaël Chester Diallo. Pour le reste, les cadres sont présents. Il s'agit entre autres de Serge Aurier et Logan Bailly en défense, Franck Kessier au milieu, Sébastien Hallé, Wilfried Zaha et Nicolas Pepe en attaque. Au Maroc, Vahid Halilhodžić, sélectionneur des Lions de l'Atlas, a convoqué l'ailier du FC Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli, pour affronter la République démocratique du Congo en barrage du Mondial 2022. Ezzalzouli, 20 ans, avait été retenu pour la première fois sur la liste du Maroc pour la CAN au Cameroun en janvier dernier, mais il avait décliné sa convocation. La presse marocaine lui avait alors prêté l'ambition de représenter l'Espagne, dont il a récemment acquis la nationalité. Le frère et agent de l'ailier gauche, auteur d'un début de saison remarqué avec l'équipe Blaugrana, avait rejeté les rumeurs sur sa décision de jouer pour l'Aurora, affirmant qu'il tenait à jouer pour son pays. La liste des 26 joueurs des Lions de l'Atlas qui joueront contre la RDC les 25 et 29 mars ne comprend toujours pas le milieu de terrain de Chelsea, Hakim Ziyech, et le défenseur de l'Ajax Amsterdam, Nusayir Mezraoui, en brouille avec le sélectionneur. Ici, en basketball, Dallas est allé mettre fin à la série de 4 victoires de Brooklyn en s'imposant 113-111 grâce à un panier à 3 points au buzzer de Spencer. Les Golden State Warriors, eux, ont eu peur en voyant sortir Stephen Curry avant la mi-temps de leur déroute à domicile contre les Boston Celtics, 110-88. La star de la franchise californienne a été touchée à la cheville gauche par Marcus Smart. De son côté, Gianni Antetokounmpo a une nouvelle fois porté les Milwaukee Bucks vers la victoire 135-126 en marquant 36 points sur le parquet des Sacramento Kings. Le leader de la conférence Ouest, Phoenix, n'a fait qu'une bouchée de Houston, 129-112.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. L'ouverture du pré-dialogue tchadien entre le gouvernement et les groupes politico-militaires n'a pas pu avoir lieu hier et a encore été repoussée à samedi, cette fois-ci par la partie gouvernementale. Les participants en profitent pour se pencher sur des recommandations qu'ils présenteront pendant ces discussions. Pour faire le point sur l'évolution des réunions, Nani Talani a joint Abdelkerim Yacoub Koundoungoumi, coordonnateur du pacte, le projet pour une alternance crédible au Tchad, un mouvement de la société civile en exil.
On n'a pas été du tout. Ça a été reporté encore de 48 heures. Cette fois-ci, du côté du gouvernement, ils n'étaient pas prêts. La société civile en exil et la coalition des politiques militaires ont eu 72 heures. On a travaillé, on s'est divisé en deux groupes et on a réussi maintenant à présenter le délégué qui a été demandé et faire la synthèse de toutes les recommandations afin de les regrouper et les représenter avec les 14 délégués qui ont été demandés. Normalement, en face, il devait aussi avoir de la délégation du gouvernement tchadien, mais je crois que c'est le gouvernement qui a demandé de l'espace de 48 heures, qui permet en même temps d'ailleurs à la résistance armée qui n'a pas fini ses travaux de synthèse et de désignation de délégués pour pouvoir finaliser comme il faut. Donc aujourd'hui, on est dans la première journée du 48 heures qui a été ajoutée. Demain, donc, ça va être la deuxième journée, on reprendra sûrement le samedi. Du côté de la résistance et les alliés de la société civile, il y a une vingtaine de recommandations qui ont été faites. C'est en cours de travaux. L'équipe a été mise en place, la délégation qui va représenter toutes les organisations dans la discussion. On est en train d'assumer tout ça et sûrement on le rendra public bientôt.
Sur quoi portent les principales recommandations?
Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, mais en général, les conditions qui permettront à l'ensemble des participants de pouvoir participer comme il se doit, en toute sécurité, à la conférence nationale souveraine qui va y avoir le mois de mai. Le point le plus important, c'est le cessez le feu, donc la cessation des hostilités, la libération des prisonniers de guerre, la question de la sécurité des participants, c'est-à-dire que face aux groupes armés qui vont participer, donc comment assurer cette sécurité-là. Il y aura la question du stationnement en zone tampon de toutes les forces armées de la résistance sur le territoire tchadien, une zone démilitarisée, peut-être avec une force neutre comme force tampon. Donc on est en train de réfléchir sur tous ces points-là. Il y a aussi la question de la modification de la charte, la question de la non-candidature des membres du CNT. Il y a la question de la libération des prisonniers politiques, de guerre et politique, la question des manifestations pacifiques qui ne doivent plus être réprimées. Il y a aussi l'enquête sur les prisonniers qui ont été exécutés, une enquête mixte entre l'élection et le CNT. Ensuite, la modification de tous les organes de la transition pour permettre aussi la participation des civils et des politiques militaires, différents organes de la transition. Donc, il y a toute une série de conditions préalables qui ont été posées, qui tournent en général vers la garantie de la sûreté de la participation de ces organisations-là au dialogue national inclusif et souverain.
Toutes ces recommandations seront présentées pendant le pré-dialogue ou pendant le dialogue exclusif de mai?
Certaines recommandations-là peut-être seront étudiées au cours du dialogue parce que comme le dialogue est souverain, peut-être certaines questions pourront être analysées là-bas.
Êtes-vous certain que vous allez bien reprendre le pré-dialogue samedi?
Normalement, si le gouvernement est prêt, oui. On a envie de dire que le gouvernement est encore en train de s'organiser pour pouvoir présenter les 10 délégués qui vont les représenter. Mais sinon, l'opposition est déjà prête et qu'on attend le gouvernement. Normalement, je crois qu'il ne va pas qu'est-ce qui va empêcher que les travaux démarrent le samedi.
Abdelkerim Yacoub Koundoungoumi, coordonnateur du pacte, le projet pour une alternance crédible au Tchad.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le début des pourparlers à Doha entre le pouvoir tchadien et le nombreux groupes rebelles.
Des discussions déjà suspendues mais jugées cruciales avant le dialogue national prévu à partir du 10 mai. N'Djamena souhaite la participation des groupes armés et des formations politiques à ce dialogue qui pourrait aboutir à un calendrier électoral permettant un retour à l'ordre constitutionnel. Le pouvoir et les groupes armés pourront-ils s'entendre à Doha? Qu'en est-il du processus de retour à un pouvoir civil? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAAfrique.com.
En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé mardi soir l'organisation d'un dialogue républicain prévu à l'Assemblée nationale du 21 au 27 mars. Ce dialogue doit rassembler plus de 400 membres de l'opposition non armée et de la société civile, avec pour objectif de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Pour analyser les enjeux et les attentes de ce dialogue, Mohamedou Oumfa a joint Henrika Pico, directrice du projet Afrique centrale à l'ICG.
Le dialogue est un enjeu très important pour le président Touadéra dans un moment où la communauté internationale a demandé des claires explications sur la présence russe en Centrafrique et a aussi demandé des garanties de dialogue, d'apaisement politique et d'ouverture vers l'opposition après des élections l'année dernière qui ont été fortement contestées par l'opposition politique. Le timing du dialogue en ce moment peut être justifié par le fait qu'au début de cette année, la procédure pour lever l'immunité parlementaire à certains leaders de l'opposition a finalement été suspendue par les autorités judiciaires centrafricaines et qui a permis aussi à l'opposition de se rendre de nouveau disponible pour le dialogue.
Les groupes armés n'y ont pas été conviés. Comment expliquez-vous ce choix?
Le choix du président Touadéra était assez clair depuis quand il a annoncé le dialogue. Les groupes armés qui font partie de la CPC qui ont été responsables de l'offensive lancée dans la période électorale ne seront pas inclus dans les dialogues nationaux, mais ils continueront à dialoguer avec les gouvernements dans le cadre de l'accord de paix signé en 2019 et de la feuille de route signée à Luanda en septembre 2021. Entre-temps, il n'y a pas eu de nouvelles négociations, il n'y a pas eu de nouveaux avancées il y a deux jours en délibère des groupes anti-Balaka Maxime Okom, qui était en exil au Tchad, a été arrêté par les autorités tchadiennes et transféré à la Cour pénale internationale. Ça marque un peu la fermeture de toutes les négociations entre le président Touadéra et les groupes armés encore actifs en Centrafrique.
Est-ce que l'absence des groupes armés à ce dialogue n'augure pas déjà l'échec de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
L'agenda du dialogue se concentrera sur des sujets qui sont évidemment toujours d'actualité pour la Centrafrique, tels que le développement du pays, l'impunité, la paix et la sécurité. Mais c'est aussi des sujets qui ont été traités largement et avec une participation massive des Centrafricains depuis toutes les préfectures du pays en 2015, pendant les forums de Bangui qui étaient tenus à l'époque, pendant la transition, et qui devaient justement être les premiers pas vers une nouvelle réconciliation nationale. Une dialogue national où, comme vous avez dit, les groupes armés ne sont pas invités et surtout sans avoir fait des consultations au niveau national. Il n'y a pas eu une vraie discussion, un vrai échange pour garantir que les dialogues soient un pas important vers la paix et la sécurité dans le pays.
Henrika Pico est directrice du projet Afrique centrale à l'ICG.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
En Mauritanie, la lutte contre l'esclavage était à l'ordre du jour d'une rencontre réunissant des délégations de pays du Sahel à Nouakchott. Voici un compte-rendu de notre correspondant Mohamed Diop.
Après le Niger et le Mali, la Mauritanie abrite le troisième sommet du réseau G5 Sahel des luttes contre l'esclavage. L'événement a réuni durant deux jours des ONG des pays du Sahel. Le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad qui militent contre l'esclavage. Raïchatou Altanata de l'ONG Temet du Mali.
C'est assez important aujourd'hui que nous mettions nos efforts en commun pour faire face à cette tragédie, à ce phénomène qui est en train de gagner du terrain de plus en plus dans nos États respectifs.
Un phénomène parfois violent, indique le Sénégalais Aliountine, fondateur d'Afrique Jom Center.
Dans des pays du G5 Sahel, de façon globale, il y a des formes même, je dirais, violentes, et très répressives, où il y a des morts d'hommes. Nous l'avons vu également, par exemple, à Kaï, l'année dernière et cette année, en dépit, bien sûr, de la volonté politique des gouvernants.
Malgré une pléthore de lois dissuasives, l'esclavage persiste au Sahel. En Mauritanie, pays hôte, la pratique est abolie depuis 1981 et même considérée comme crime contre l'humanité dans la loi 2015. Biram Dabeïde, député et président de l'ONG IRA Mauritanie.
Cette synergie qui est en branle en Mauritanie entre le pouvoir exécutif, depuis l'arrivée du président Kazouani, le pouvoir législatif, le pouvoir des ONG, de la société civile, cette synergie n'a pas encore englobé les juges, le pouvoir judiciaire qui reste tourné vers le passé. Les juges n'ont jamais appliqué la loi.
Le sommet de Nouakchott annonce donc une alliance des gouvernements et sociétés civiles pour rendre plus efficace la lutte contre l'esclavage. Idée saluée par le gouvernement mauritanien. Cher Ahmed Ouahmed, commissaire mauritanien aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile.
Le thème de la rencontre reflète la bonne vision et la compréhension parfaite de la nécessité d'un partenariat entre les gouvernements et la société civile afin de promouvoir et de protéger les droits et les libertés.
Plus concrètement, un manuel de lutte contre l'esclavage au Sahel a été établi. Et gouvernement et société civile sont invités à l'élaboration prochaine d'une stratégie coordonnée visant l'éradication complète de l'esclavage et de ses séquelles dans la sous-région.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président Joe Biden a annoncé une nouvelle aide de 800 millions de dollars pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'invasion russe, en plus des 200 millions de dollars alloués la semaine dernière à Kiev. Cette aide intervient après le plaidoyer du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain. Mise en perspective de Patsy Widakuswara, correspondante de La Voix de l'Amérique à la Maison Blanche, le récit est de Jean-Roger Bion.
Les combats entre les forces russes et ukrainiennes s'intensifient à Kiev, Mariupol et d'autres villes ukrainiennes.
Poutine occasionne une dévastation sans précédent et une horreur épouvantable à l'Ukraine. Bombardement d'immeubles d'habitation, de maternité, d'hôpitaux.
Le président américain Joe Biden a mis en place un nouveau filet sécuritaire de 800 millions de dollars en faveur de l'Ukraine, en plus des 200 millions de dollars qu'il a fait décaisser samedi. Ces aides font partie d'un programme de 13,6 milliards de dollars que le Congrès américain a adopté la semaine dernière en faveur de l'Ukraine. Michael Kimmage est le président du conseil consultatif du Kennan Institute au Wilson Center. Il intervient via Skype.
Ce qui bloque vraiment les Russes et inflige des coûts considérables à l'armée russe, ce sont ces armes et systèmes anti-aériens. Donc, je pense qu'il y a une raison tactique et pratique pour laquelle l'attention s'est portée sur ces systèmes d'armement.
S'adressant mercredi au Congrès américain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a sollicité l'aide du président Biden.
I wish you to be the leader of the world.
Je veux que vous soyez le leader du monde. Être le leader du monde signifie être le leader de la paix.
Be the leader of peace.
Malgré la demande de Zelensky, les États-Unis n'entendent pas donner de suite à la requête d'avions de chasse et moins encore à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne comme le souhaite l'Ukraine. Stephen Biddle, chercheur principal adjoint pour la politique de défense au Council on Foreign Relations via Skype.
The primary threat to Ukrainians is conventional artillery.
La principale menace pour les Ukrainiens est l'artillerie conventionnelle, les missiles conventionnels et les forces terrestres conventionnelles. Une zone d'exclusion aérienne n'affecterait rien de tout cela.
Les plus hauts responsables de la défense de l'OTAN, dont le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, se sont rencontrés mercredi à Bruxelles, craignant que Moscou élargisse son attaque pour cibler le territoire de l'OTAN L'Alliance élabore des plans pour de nouvelles façons de l'en dissuader, a déclaré le secrétaire général Jens Stoltenberg.
C'est pour supprimer toute possibilité d'erreur de calcul ou de malentendu en direction de Moscou quant à notre volonté de protéger et de défendre tous nos alliés.
4 milliards de dollars sur les 13,6 milliards de dollars approuvés par le Congrès fourniront une aide humanitaire aux plus de 3 millions d'Ukrainiens déplacés par la guerre.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagno. À la présentation, Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.